Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Anthropologie, phénoménologie et théorie de l'éducation dans l'œuvre d'Edith Stein, c'est le titre de ce livre par aux éditions du CERF. L'auteur est Éric de Rus. Bonjour Éric de Rus.
Bonjour.
On vous reçoit depuis le début de la semaine sur ce dernier livre qui est tout votre travail
oui.
De doctorat, de thèse
c'est
autour
ça.
D'Edith et de cette belle œuvre.
Oui.
Alors, le contenu est phénoménal. Comment avez-vous abordé cette thèse ?
Alors, je l'ai abordée comme un travail de recherche en essayant de montrer, puisque rien de tel n'avait été tenté sur la question de l'éducation en France avant cette thèse. Donc, il s'agissait de montrer que l'intérêt d'Edith Stein pour l'éducation, alors c'est quoi l'éducation sans Edith Stein ? C'est la formation de toute la personne, dans toutes ses dimensions, en vue qu'elle devienne vraiment humaine et authentiquement elle-même. Donc vraiment humaine et authentiquement elle-même. Donc ça, c'est l'éducation comme formation, on dirait, intégrale, totale de la personne humaine. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est quelles sont les conditions d'une telle éducation, ce qu'on appelle l'anthropologie, qu'est-ce qui fonde, sur quoi ça repose du point de vue de ce qu'est l'être humain. Donc c'est le lien entre l'être humain et l'éducation, montrer que chez Edith Stein, cette préoccupation pour l'éducation n'est pas du tout un thème périphérique, secondaire, mais que c'est vraiment le point où se condense sa pensée sur la personne humaine, c'est là où on voit ce que l'être humain est et peut devenir, puisque c'est un processus. Et donc j'ai voulu démontrer l'unité de l'anthropologie et de l'éducation et comment cette unité traversait toute son œuvre, parce qu'en fait, dès les premiers écrits, même si apparemment elle ne parle pas d'éducation, en réalité, on trouve les éléments, les outils pour comprendre sa conception de l'être humain et finalement sa conception de l'éducation. L'éducation, c'est quoi ? C'est le déploiement de l'humanité selon sa destination naturelle et surnaturelle. Donc, Edith Stein englobe, j'allais dire, la totalité des possibilités, jusqu'à la sainteté, de ce que l'être humain peut devenir du fait de sa liberté et en réponse à un appel. Et c'est cela, l'objet de ce travail, alors bien sûr, où j'ai creusé, avec des outils philosophiques aussi, toute cette thématique.
Alors, quels sont un peu les fruits et les conséquences de ce travail, Éric de Rus ?
Alors, les fruits...
Edith Stein bientôt enseignée dans les universités auprès
alors,
des étudiants ?
En effet, j'ai été heureux d'apprendre que... alors, je ne sais pas si c'est une conjonction, un hasard, mais le président du jury de thèse qui enseigne à l'université Sorbonne Paris 4, la thèse a été soutenue en novembre 2018. Et bien, en septembre suivant, il a proposé un séminaire sur Edith Stein et il m'a écrit lui-même, elle mérite d'entrer à l'université, dans l'université officielle française. Et donc ça a été, très modestement, j'espère, que en tout cas l'intérêt pour ce travail de thèse a pu peut-être donner une petite impulsion pour que Edith Stein, en effet, aujourd'hui, pénètre le tissu de l'université publique, laïque, de la République, sans aucun prosélytisme, mais simplement parce que c'est un penseur qui mérite hautement, au même titre que de beaucoup d'autres, d'être connu et reconnu. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une certaine génération d'étudiants qui pensent faire des thèses sur Edith Stein, pas seulement dans des instituts catholiques, dans des universités catholiques, mais aussi dans des universités d'État.
Donc, Edith Stein, au-delà du catholicisme.
Oui, parce que je crois...
Elle traverse les frontières.
Oui, elle nous fait renouer avec le sens du catholicisme, de l'universel. Il y a une universalité chez Edith Stein, et parce que c'est un être qui a été habité par le désir de vérité, la soif de la vérité. Et ça, c'est quand même une soif qui est au cœur de tout être humain. La soif de la vérité, c'est-à-dire du réel, de ce qui est consistant, de ce dont je ne suis pas le fondement, mais ce sur quoi je peux m'appuyer. Et elle dit pendant longtemps qu'avant sa conversion, sa seule prière, c'était la recherche de la vérité. Et donc si Edith Stein rejoint tant de personnes, même celles qui n'ont pas reconnu la vérité dans la personne du Christ, comme elle sera amenée à le reconnaître, il n'en reste pas moins qu'elle est leur sœur en humanité, parce que c'est une chercheuse qui s'est engagée totalement dans cette recherche. Et aujourd'hui, au-delà en effet des frontières de l'Église visible, nos contemporains sont affamés de vérité sans pouvoir dire que c'est ce qu'ils cherchent. En hébreu, et vérité c'est émet, et ça renvoie au roc sur lequel on peut s'appuyer. Et Edith Stein cherche en permanence ce roc. La vérité c'est un roc sur lequel je peux construire mon existence. Et ça, tout être humain y aspire.
Et la force d'Edith, dans ce que vous décrivez, et puis tout cette œuvre, et ce travail, c'est cette audace qu'elle a eue tout au long de sa vie, de se risquer. Edith n'a jamais cessé de prendre des risques.
En effet,
quête de la vérité.
Mais oui, parce que...
Et est-ce que c'est la prise de l'amour ?
En effet,
quête inlassable d'un grand amour.
En tout cas, elle-même, vous avez raison, elle-même a découvert que la vérité méritait d'être aimée. La vérité méritait d'être aimée parce que finalement, elle a découvert que la vérité et l'amour étaient un. La vérité, c'est l'amour et l'amour est la vérité. Et bien sûr, elle en a découvert le nom, le visage, la personne du Christ et elle en a vécu la vie dans l'Église qui, dit-elle, est la vie du Christ continuée à travers les sacrements. Et donc Edith Stein s'est risquée parce que quand vous vous mettez à la suite du maître, vous ne savez pas ce que ça pourra exiger de vous, ni ce qui vous sera donné. Vous ne savez rien, vous savez simplement que vous devez avancer un pas après l'autre. C'est lui qui tient. Et donc Edith Stein s'est risquée, n'a pas fait de calcul. Elle est sans calcul, mais elle est d'une droiture qui est exemplaire et qui nous inspire. Moi, je crois
qu'elle vous a inspiré. Elle vous a inspiré aussi pour oser prendre de tels risques.
Oui, vous avez raison. Je crois que l'un des plus beaux compliments que l'on puisse faire à un auteur ou à un être, c'est de dire qu'il est inspirant. C'est-à-dire qu'il éveille en vous le souffle de vie. Et c'est quand même ce souffle qui nous a été insufflé, nous rappelle le livre de la Genèse au début de la création, et ce souffle c'est la vie de Dieu. Donc quelqu'un d'inspirant c'est quelqu'un, non pas qui vous aliène à lui-même et que vous allez adorer comme une idole, pas du tout. Quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un qui vous rend à vous-même, qui vous met debout et qui vous permet de vous lancer dans l'existence et de prendre en effet le seul risque qui vaille la peine, celui de la recherche de la vérité, de l'amour, du sens. Et Edith Stein pour moi c'est cette grande sœur dans l'esprit et dans la vie.
On entend aussi d'Edith, de cette femme et de cette maternité au fond, dans le monde aussi des intellectuels, des penseurs, des chercheurs aussi, lecteurs.
Vous avez tellement raison, moi c'est quelque
Edith Stein enfante.
Que l'intelligence puisse porter la vie, et ça c'est quelque chose qui m'a depuis toujours interpellé, parce que force est de constater que parfois l'intelligence peut dessécher, un certain usage de l'intelligence peut dessécher, rabougrir, faire tourner autour de soi et couper de la vie. Et là, Edith Stein montre que l'intelligence doit rester reliée à la vie pour porter la vie et surtout pas la mort. Parce qu'on peut mettre l'intelligence au service de la mort. Et Edith Stein a vécu à une époque où l'idéologie nationale-socialiste, le nazisme, qui était une idéologie qui a instrumentalisé l'intelligence pour lui faire porter des fruits de mort et de destruction. Comment a-t-elle répondu ? Sur le même plan, le plan de l'intelligence, mais une intelligence fécondée par l'amour, qui allait dans le don de sa vie porter un fruit qu'elle ne pouvait pas soupçonner. Mais on en est les héritiers aujourd'hui.
Et jusqu'au martyr, jusqu'au don de sa vie.
Exactement, le don suprême, le don de sa vie, qu'elle n'a pas voulu, mais auquel elle a consenti, parce qu'elle y était appelée.
Et cette intelligence s'est vécue, et vous l'avez rappelée, à genoux.
Dans l'agenouillement, en effet, qui l'élève jusqu'à la vérité. Mais il faut s'agenouiller.
Ça, c'est un autre sujet.
Oui.
C'est une autre étape.
Oui.
Laissons nos auditeurs, laissons aussi les lecteurs partir peut-être au désert, en lisant et en se plongeant aussi dans l'œuvre d'Edith Stein, au désert, pour apprendre à écouter.
pour apprendre à écouter,
être
donc
comme
à
un
obéir.
Enfant aussi,
complètement.
Qui ne sait plus obéir, qui ne sait plus écouter.
C'est l'une des thématiques chez Edith Stein, l'enfance aussi spirituelle, c'est vrai.
Éric de Russe, vous êtes l'auteur aussi de ce livre par aux éditions du CERF, Anthropologie phénoménologique et théorie de l'éducation dans l'œuvre d'Edith Stein. Et pour bon nombre d'auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore et n'ont pas approché les écrits et l'œuvre d'Edith, eh bien, osez ce déplacement et devenez lecteur.
Tout à fait.
Merci Éric de Russe, à
demain. Merci.